Je vous raconte l'histoire de l'année 1975 en archives et en 5 volets. Programme de ce 3e volet. La déesse est morte, vive la Peugeot 604. Le bouchon du siècle sur l'autoroute A7. Le PSG sauvé de justesse et l'été indien qui fait danser la France.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1975.
Au mois de mai 1975, la firme Citroën annonce l'arrêt de la production de la DS, après 300 000 exemplaires sortis d'usine. Si la voiture est gage d'élégance, c'est vrai qu'elle coûte cher en entretien. Écoutez cet inconditionnel de la marque.
J'ai eu à peu près tous les modèles de Citroën. J'ai eu la, quand elle est sortie, la 4 cylindres, puis la 6 cylindres, la traction avant. J'ai eu la 7 chevaux, la première, j'ai eu la 11 et j'ai eu la 15. J'ai eu une première DS. Alors là, j'ai eu beaucoup d'ennuis avec la première DS que j'ai eue. Je peux dire que j'ai eu toutes les réparations à faire et qu'en réparation, elle m'a coûté plus cher que le prix d'achat. Malgré ça, j'en ai racheté une. Et maintenant, j'ai une DS 21 à injection. Et j'en suis très, très satisfait. Mes réflexes sont des réflexes de quelqu'un qui a conduit depuis toujours des Citroën. Et par conséquent, si je peux, je rachèterai une Citroën.
Ou alors, une Peugeot. En 1975, le tout nouveau modèle de la marque vient de sortir, la Peugeot 604. Et les spécialistes s'empressent de l'essayer.
La 604 Peugeot vient d'être présentée aux spécialistes automobiles. Jacques Farinck l'a essayée pour vous sur la route.
Le confort est exceptionnel. C'est vraiment le gros point fort de la voiture. Malgré une position de conduite un peu perfectible, je pense qu'il rejoint les qualités exceptionnelles que l'on a connues avec les voitures à suspension hydropneumatique. Côté moteur, le tableau est un peu moins brillant. La valeur maximale du couple moteur qui traduit l'effort de traction de la voiture culmine à 21 m/kg. C'est assez modeste pour une voiture de 15 chevaux. Il en résulte des accélérations moyennes relativement bonnes, disons, lorsqu'on joue avec le levier de vitesse. Par contre, les reprises sont décevantes si l'on considère que l'on a une voiture de 15 chevaux.
Malgré quelques imperfections, la Peugeot 604 trouve son public. Et à l'Élysée, elle prend la place de la Citroën DS23. Ces nouveaux modèles, s'ils sont moins esthétiques, sont en revanche plus performants et surtout plus sûrs.
Les balais d'essuie-glace sont l'un au-dessus de l'autre et procurent deux balayages devant le conducteur. Ça, c'est une nouveauté et je crois que c'est astucieux et bon pour la sécurité. Du côté des projecteurs, on a l'habitude toujours de soigner l'éclairage route. Eh bien là, c'est l'éclairage feu de croisement qui est soigné parce que finalement, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Quant aux pare-chocs, ils sont vraiment conçus pour résister à des chocs à 7 km à l'heure.
Autre nouveauté de 1975 en matière automobile, désormais, tous les véhicules doivent être équipés d'une ceinture de sécurité.
Oui, il y aura deux catégories d'automobilistes. Tout d'abord, ceux dont le véhicule aura été mis en service entre le 1er juillet 68 et le 1er avril 70 devront faire mettre des ceintures avant le 1er juillet 1975. Quant à ceux qui possèdent des voitures sorties entre le 1er septembre 67 et le 1er juillet 68, ils devront eux s'équiper avant le 1er janvier 1976. Cette mesure touche en tout 2 500 000 véhicules, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, environ 9 millions de voitures auront des ceintures.
La ceinture était obligatoire sur les routes depuis déjà 5 ans. Elle le devient aussi en ville à partir du 15 janvier 1975. Au grand dam de certains.
Bonjour monsieur, police nationale CRS. Voyez-vous, la ceinture de sécurité va être obligatoire à partir du 15 janvier en ville.
Oui.
Savez-vous qu'il y a de nombreux accidents en ville ?
Oui.
Effectivement, dans une ville comme Marseille, il y a eu 107 morts l'année dernière. Oui. Et 63 à Nice, en particulier la nuit.
Oui. Je pense que c'était souhaitable, effectivement, qu'on porte la ceinture en ville. Mais je pense tout de même qu'il faudrait que les ceintures soient adaptées à ce genre d'exercice, c'est-à-dire des ceintures à enrouleur. Parce que moi qui travaille fréquemment en ville, je sors et je rentre de voiture 2-3 fois par heure. Vous voyez à peu près le nombre de manœuvres qu'il va falloir faire, c'est très pénible.
Pénible peut-être, mais obligatoire. Et en février 75, un septuagénaire de l'Isère l'apprend à ses dépens. Il est condamné pour avoir refusé de la porter pour raison médicale.
Monsieur, vous avez été condamné à une amende de 80 francs alors que le tribunal, en vertu de l'article R233.1, pouvait vous infliger une amende allant jusqu'à 600 francs. Que pensez-vous du jugement ?
Je pense qu'il a été raisonnable. D'après ce que j'ai compris, il ne pouvait pas faire autrement que de condamner, puisque lui est obligé d'appliquer la loi. Alors pour aller plus loin, il faudra en appel et peut-être en cassation. Enfin, j'ai quand même pas le temps de m'occuper de ça.
Est-ce que cette ceinture de sécurité, vous la porterez dorénavant ?
Eh bien non, je ne la porterai pas, puisque maintenant j'ai mon certificat médical. Maintenant, aller plus loin, un assesseur du président m'a dit qu'il fallait aller voir le pape. Alors je ne sais pas si j'irai jusqu'à Rome.
En 1975, les contraventions tombent comme à gravelotte. Pour refus de port de ceinture, mais pas seulement, aussi pour stationnement illicite.
Vous avez l'impression que depuis un mois à peu près, les contraventions reviennent plus régulièrement qu'auparavant ?
Moi j'y crois, oui, mais je les déchire tout simplement. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Je compte quand même employer davantage les transports en commun.
Dernièrement, effectivement, j'ai eu pas mal d'avis, une bonne dizaine, oui, hier avant-hier.
C'est juste avant les vacances, ça vous ennuie pas trop ?
Ben oui, ça m'ennuie, évidemment.
Là, avec les nouveaux tarifs, vous allez continuer de payer ?
Oh, j'en sais rien, hein, parce que... Je sais pas, il faut que je trouve un garage parce que maintenant c'est plus possible.
Quand vous avez des contraventions, vous les payez ?
Ah non, j'en ai payé une ou deux, quoi, dernièrement, là. Et elles dataient du mois de septembre.
Vous avez l'impression qu'elles reviennent maintenant régulièrement ?
Oui, oui. Ah oui, en comparaison à avant. Hein. Elles reviennent, mais il me semble aussi qu'elles reviennent déjà plus vite. Avant encore, ça arrivait à passer à l'as, tandis que là, en ce moment, hein, ils nous épinglent. Hein.
Et celle que vous payez pas ?
Ben, j'attends.
Il y a eu une amnistie il n'y a pas longtemps, mais là, il n'y a pas d'amnistie en vue avant un bon bout de temps.
On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Vous savez, hein. La conjoncture actuelle, hein, ça change peut-être tellement vite. Hein. On ne sait jamais. Hein. Je ne souhaite pas que le président y meure, mais enfin...
On compte toujours là-dessus.
Ah oui. On n'a que ça. On n'a que ça. Ou alors, qui nous oublie ?
Europe 1, on de la traconte. L'année 1975.
En 1975, l'autoroute du Sud, chère à Nino Ferrer, se transforme en enfer routier. Le vendredi 1er août, au démarrage du chassé-croisé, les viticulteurs du Languedoc bloquent plusieurs axes routiers en signe de mécontentement.
On part par un jour, on descend à Mâcon, hein, alors.
Ça vous dérange beaucoup ?
Non, ouais. Pas tellement.
Pas tellement, enfin. On aimerait bien arriver aussi, hein. Parce que vous savez, on est comme tout le monde, hein.
Nous, on travaille toute l'année.
Toute l'année, alors vous savez, quand on est des ouvriers.
La salaire humaine ne tient pas non plus pour nous.
Allez, on vous demande, on vous fait pas, vous savez, 5 minutes.
S'il faut faire tout le long comme ça, ben
non, 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 mais.
On va passer les vacances là.
Eh bien, ouais, mais c'est comme ça, mon pauvre ami. Hein.
Nous autres, on ne peut rien dire, hein, parce que chez nous, c'est la même chose. Hein. Voilà. On a ça tout le mois aussi. Hein.
C'est une catastrophe, c'est écœurant, monsieur.
Non, merci, je suis de Bourgogne, je sais ce que c'est que le bon pinard, merci.
Que si tout le monde en faisait autant, monsieur, tout le monde crèverait la bouche ouverte.
On recule, on se tire d'ici. Hein.
Il n'y a pas de gendarmes, monsieur, si les gendarmes faisaient
si
un boulot,
oui.
Il n'y aurait pas de viticulteurs en travers des routes, parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde s'y mette pas en travers des routes.
Nous, on n'est pas dans le coup, ça ne concerne pas le tourisme, ils sont bien gentils. Mais si tout le monde le faisait, ça, à ce moment-là, ils vont faire le bordel à Paris, moi, je crois. Hein. C'est quand même pas... C'est nous qui sommes embêtés, moi, je suis des enfants qui dorment. Qui, en plus de ça, j'ai un enfant inadapté. Alors, on préférerait rentrer, vous comprenez. Enfin, chacun défend son biflet comme il peut, je regrette. C'est dommage que je tombe sur le barrage, quoi. C'est dommage. Voilà.
C'est l'opération du charme. Regardez-moi, madame. Je suis le plus beau des viticulteurs du coin.
De toute façon, voilà.
De toute façon, nous sommes du pays. Alors.
Ouais. Et vous compatissez ?
Je compatis à tout.
Alors, si vous voulez bien compatir, buvez surtout notre vin.
Vous voulez boire du vin ?
Surtout pas.
Vous voulez en boire ? Boire de l'eau minérale.
Il y en a du vin, là. Il y en a du vin.
Dans la soirée, les viticulteurs changent de ton. Malgré les consignes, ils passent à l'offensive. Des panneaux de signalisation sont recouverts de peinture noire. Et cette action empêche les automobilistes de repérer les itinéraires de délestage. Et dès le lendemain, ah bah c'est le drame.
Depuis ce matin, on frôle la paralysie totale, surtout sur deux grands axes, la Nationale 10 entre Tours et Hendaye et la Nationale 9 entre Narbonne et Le Perthus. Sur ces deux axes, les bouchons sont permanents, il faut en moyenne 3 ou 4 heures pour parcourir 10 km. Et ça n'est pas fini, cette situation va encore durer toute la nuit et la journée de demain. Des bouchons également en Bretagne et en Normandie, où la circulation est très ralentie. Pare-choc contre pare-choc, sous un soleil écrasant, l'excitation des touristes est à son comble. 6000 km de bouchons, cela représente 720 000 voitures bloquées dans la chaleur et les effluves d'essence. Les responsables de la circulation savaient que ce week-end serait difficile, mais ils n'avaient jamais envisagé une telle asphyxie.
Cette asphyxie, les viticulteurs y ont largement contribué. Mais ils ne sont pas les seuls responsables.
Informés de cette situation, beaucoup de vacanciers se rendant en Espagne ont préféré éviter le Languedoc-Roussillon et emprunter la Nationale 10, une route déjà saturée, qui a connu cette année un trafic de 40% supérieur à celui de l'année dernière. Mais ça n'est pas l'unique raison de cette asphyxie. L'année dernière, les départs du 1er août s'étaient étalés sur 4 jours, cette année sur 3 seulement. 8 millions de voitures ont pris la route contre 6 l'an passé. Beaucoup d'étrangers, Hollandais, Belges, Allemands, s'ajoutent aux automobilistes français. 20% des automobilistes tractent des caravanes, ce qui ralentit encore la circulation. Et puis aussi, les vacanciers préfèrent les grands axes aux petites routes. Ils se sentent plus en sécurité sur les nationales, même si elles sont surchargées.
Et plus les heures passent, plus le temps de trajet augmente. Et par endroits, ça devient le délire.
On a quitté Garges à 6h du matin. 6h du matin et on en est là, à 9h05, je crois qu'on est à Fontainebleau ici. Hein.
On est à Fontainebleau, oui. Vous avez prévu une heure d'arrivée ?
Non, on a prévu le pique-nique surtout.
Je viens de la banlieue ouest, j'ai quitté vers 6h30, je suis à Fontainebleau à 9h, 2h30 pour 75 km.
Est-ce que vous avez prévu une heure d'arrivée ?
Non, absolument pas. Absolument pas, compte tenu des informations pessimistes.
On y a presque en partie maintenant. On y a presque en partie, il y a les embouteillages, on s'arrête. Il y en a pour rouler. Et puis c'est tout.
Que vous faites dans la voiture pendant les embouteillages ?
Attends, j'ai mon petit bouquin.
On écoute la radio, puis on discute avec ma belle-mère. Voilà. Puis on regarde les gens.
On met la radio. On écoute les bouchons.
Et alors pourquoi partir aujourd'hui ? Pourquoi pas lundi par exemple ?
J'ai loué à l'hôtel et je me suis dit peut-être que les autres jours ce serait la même chose.
On mange des œufs durs, on a des bananes, on mange pour passer le temps.
Ça fait déjà un peu partie des vacances les bouchons ?
Ah non, ça m'ennuie beaucoup.
Et pour le chef de la circulation routière à la direction de la gendarmerie, le colonel Chichignou, il y a un autre phénomène à prendre en compte.
Il y a une augmentation de 20 à 30% des VL tractant des caravanes, des bateaux, des remorques. Ces véhicules constituent des gênes considérables, des motifs de ralentissement et des motifs de bouchons. C'est une leçon qu'il faut que nous tirions pour l'avenir. Il va falloir que nous nous montrions vigilants sur ce point-là aussi, en essayant non seulement de prévoir le trafic globalement, mais la composition du trafic, c'est-à-dire les types de véhicules qui vont constituer ce trafic.
À Montbazon, à Châtellerault, partout, la traversée des villes est un casse-tête. Pour le ministre de l'Équipement, Robert Gallet, il est urgent d'agir.
La solution, nous la connaissons, puisque plus personne ne parle d'encombrement dans la vallée du Rhône ou sur la ligne Paris-Lyon, qui était le cauchemar des autres années. Eh bien, il faut faire le plus vite possible l'autoroute de Tours, Poitiers, Bordeaux, et puis améliorer la route des Landes et faire l'autoroute du Pays Basque. Moi, je crois que c'est la solution, et la solution finale de tous les problèmes, c'est quelque chose que nous pensons pouvoir réaliser pour 1980, et puis après, on verra. Et je crois aussi, c'est une leçon que nous en tirons, c'est qu'il faut que nous multiplions les possibilités de délestage et que nous étudions chaque année, en fonction de l'expérience de l'année précédente, des itinéraires nouveaux qui permettraient à des automobilistes qui les suivent d'éviter la plupart des bouchons.
Ce 2 août 1975, 60 000 voitures sont restées bloquées et ont constitué un bouchon cumulé de 450 km. Le bilan humain est lui aussi tragique. 3 733 accidents et 213 morts. Ce bouchon du siècle sera le point de départ de nombreuses mesures. L'année suivante, 600 000 cartes de France décrivant les itinéraires bis seront éditées. et une vingtaine d'heures d'accueil autoroutière seront aménagées sur les axes les plus fréquentés. Et un personnage va faire son apparition, Bison Futé.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été.
Le Sud de Nino Ferrer en 1975.
L'année 1975.
Après le bouchon du siècle de début août, la voiture n'a plus aussi bonne presse. Le 16 août 1975, la ville de Paris décide de tester la journée sans voiture. Le périmètre est circonscrit au centre.
Et vous, alors, vous vous promenez sur ces Champs-Élysées ?
Ravi de me balader, oui. Pour une fois qu'il y a un peu moins de bagnoles. Hein.
Mais vous êtes ravi, mais vous savez que ça se passe une fois de temps en temps, sans plus.
De temps en temps, oui. C'est bien pratique pour circuler en voiture, quand même.
Je trouve que c'est une idée merveilleuse et qu'il faudrait recommencer souvent. Et interdire à tout jamais le carrousel aux voitures, parce que ça abîme d'une façon terrible cette merveille qu'est le Louvre. Quand j'étais petite, je jouais dans la cour du Louvre et j'en ai un souvenir qui ne me quittera jamais. J'ai 75 ans. Et vous savez, ça m'a fait plaisir de revoir le Louvre comme ça.
C'est une expérience intéressante, mais c'est la première fois, pour nous, c'est la première fois.
Vous pensez que si ça se renouvelle, après, ça deviendra une habitude et que finalement, on n'y fera plus attention?
Moi, je souhaite que ça se renouvelle tous les week-ends, à partir du vendredi soir jusqu'au lundi matin.
Et vous partirez en week-end pour les Champs-Élysées?
Non, je resterai de la gare Montparnasse, je viendrai jusqu'ici, ça sera mon week-end.
Cette opération ville sans voiture fait des ébules. En septembre 75, c'est au tour de la ville de Senlis, dans l'Oise, de tenter l'aventure. Le temps d'un week-end, la ville retrouve son aspect médiéval.
Une cathédrale du XIIe siècle, des ruines romaines, des caves gothiques, des rues anciennes aux pittoresques maisons bourgeoises. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir ici, tant de choses d'ailleurs qu'on ne peut réellement les apprécier qu'en flânant sans contrainte, c'est-à-dire pour beaucoup sans circulation automobile. Cela se disait depuis longtemps à Senlis. L'expérience a été tentée, elle a réussi. Deux jours par semaine, au mois de septembre, la Cité Royale devient une ville sans voiture. Expositions, concerts, spectacles de danse y sont également organisés. Bilan, il est encourageant. Senlis a accueilli 120 000 personnes en deux jours.
Et tout ça fait le bonheur des anciens. Ils ont l'impression de vivre une seconde jeunesse.
Dans mon temps, on pouvait circuler sans être bousculé par les voitures. Maintenant, les gens, même pour aller chercher un paquet de cigarettes, il leur faut leur voiture.
C'est un promenade, n'importe quoi, ça se retourne.
D'ailleurs, ça fait, il n'y a qu'en pied qu'on peut apprécier vraiment la beauté d'une ville et tous ses détails. Sans ça, en voiture, on passe, on ne voit rien. Ça donne qu'un aspect d'ensemble.
Ça permet de visiter, de voir, parce que maintenant, les villes, on ne les voit plus parce que ça sert de parking. Quand vous arrivez à place de la Concorde, vous voyez des voitures. Mais sauf qu'on devrait dégager, même dans Paris, certains endroits très beaux, comme le parvis Notre-Dame, tout ça. Ce serait beaucoup mieux s'il n'y avait pas de voiture du tout, vous voyez.
En 1975, preuve qu'on commence à se méfier des voitures, on développe des rues piétonnes partout en France. Comme ici à Rennes, le maire Henri Fréville est fier d'inaugurer la nouvelle rue Vasselot.
Nous sommes une ville très particulière, nous sommes une ville du 18e siècle. Les transferts de circulation nord-sud, est-ouest sont extrêmement difficiles. Nous arrivons à la période précisément où les rocades se terminent, où les priorités sont réalisées et nous allons continuer de façon aussi intelligente que possible. Je vous dirais même que ces jours derniers, j'ai eu à Paris les entretiens nécessaires. Et c'est un début, mais ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un commencement.
70 mètres, oui, c'est très peu.
C'est très peu, mais c'est très bien fait.
Seule une portion de la rue Vasselot devient piétonne. Mais pour les commerçants concernés, le changement est notable.
Moi, je trouve ça franchement magnifique parce que moi, je suis en recul. Et depuis, sincèrement, malgré les travaux, ben, j'ai travaillé à peu près convenablement. Malgré qu'on a eu un parti de la nuit avec les travaux. Et j'espère que par la suite, ce sera très bien. Parce que j'ai vu plusieurs villes et c'était bien.
Ça devrait vous rapporter des clients, non ?
Ah ben, le passage serait plus grand, il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait rien du tout, la rue était... Les gens ne traversaient pas pour venir chez moi, j'avais premièrement deux voitures et là, les gens ne traversaient pas d'un côté pour venir ici.
Hein. Moi je trouve ça sensationnel, c'est heureux quoi, disons, et même pour le client c'est beaucoup plus sympathique, il peut venir se détendre, même les enfants, tout ça.
Ça vous cause un préjudice la circulation automobile ?
Oui, et les trottoirs trop étroits surtout.
Et maintenant, vous croyez que vous allez gagner des clients ?
J'espère, et beaucoup.
Et c'est parti ! Metz, Besançon et Grenoble veulent maintenant leur rue piétonne. Le 6 septembre 1975, c'est au tour de Lyon d'inaugurer la sienne.
C'est une véritable marée humaine qui a déferlé hier dans la rue de la République pour une inauguration peu protocolaire mais très sympathique. Le cortège officiel conduit par le maire de Lyon s'est vite noyé dans cette foule bigarrée et en délire. Un véritable triomphe. Jamais encore on avait vu pareil embouteillage, mais restait à savoir si les commerçants, eux, étaient satisfaits.
Vous aimez bien la rue de la République ?
Beaucoup. Seulement avant, avec les voitures, on ne pouvait pas bien se promener. Maintenant, c'est mieux.
C'est peut-être dû, parce qu'on a été obligé, qu'on a fait le métro, que la rue de la République est devenue rue piétonne. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est très très bien.
Oui, c'est vraiment gai, c'est bien.
Vous veniez souvent dans la rue de la République ?
Oui, encore assez, oui.
Et maintenant, vous allez venir plus souvent ?
Oui.
Je crois qu'on n'a jamais tant vu autant de Lyonnais dans les rues. J'espère que cela continuera et je crois que ça donnera aux gens l'envie de sortir et de réapprendre à vivre.
Ça continuera. En 75, le président de l'Institut européen d'écologie, Jean-Marie Pelt, rêve lui de grandes villes encore plus conviviales.
Par exemple, quand vous sortez de la gare, il n'y a aucun accueil. Il y a juste une tête de taxi pour avoir un bon portefeuille, quoi. Mais la petite personne qui arrive là, n'importe qui. Enfin, vous avez été dans une grande ville, vous ne savez plus où vous êtes... Perdu. Bon, il y a une possibilité de faire un accueil. Je prends un autre aspect, n'est-ce pas, la rue piétonne. C'est la mode. Bon, c'est très bien, sans doute, n'est-ce pas. Mais dans une rue piétonne, ça devient maintenant des couloirs de circulation, non plus automobile, mais piétonnière. Alors on circule dans un couloir de marchandises, à vrai dire. Et si on ne prévoit pas autour de ce couloir des lieux de rencontre, des lieux où on puisse s'asseoir, où on puisse faire autre chose que simplement être dans la circulation d'achat, eh bien, ça continue, malgré la rue piétonne. Vous voyez, je crois que c'est tout un esprit qui est derrière. Et cet esprit, nous tentons justement de le mettre au clair, de voir qu'il est possible d'envisager une autre manière de vivre, une autre manière d'exister.
Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre.
Les mots bleus de Christophe, joli succès de l'année 1975.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1975.
En 1975, le Paris Saint-Germain fête ses 5 ans. Problème, la pelouse du Parc des Princes n'a pas bonne presse, comme le raconte l'attaquant lyonnais Bernard Lacombe.
On ne peut plus appeler ça une pelouse parce que ça ressemble tout, sauf à un terrain de football. Hein. Il y a des endroits où le ballon il s'enfonce, on n'arrive même plus à pouvoir le dégager de trous énormes. Alors vous savez, c'est vraiment inadmissible de jouer des matchs de Coupe de France et je plains le Paris Saint-Germain qui joue tous les 15 jours dessus.
Face à la polémique, une équipe est mandatée pour évaluer l'état du terrain. Et le verdict tombe. Quand le parc a été agrandi il y a 5 ans, il aurait fallu changer la terre. Et ça n'a pas été fait.
Ce que je peux vous dire, d'une façon générale, c'est que la pelouse est à refaire. À refaire complètement, parce qu'elle était faite à partir de matériaux qui sont des matériaux récupérés de l'ancien Parc des Princes, qui ont été stockés pendant très longtemps, qui ont perdu toute qualité au point de vue terre végétale, qui sont beaucoup trop denses, et que lorsqu'ils ont été mis en place, ont acquis une compacité telle que l'eau ne le traverse pas. Et ne va pas jusqu'à la couche de drainage qui, elle, est de bonne qualité. Alors dans ces conditions, lorsque le débit d'eau qui vient de la pluie est très élevé, l'évacuation, l'absorption par le terrain ne se faisant pas, il y a une rétention de l'eau au niveau des plaques de gazon qui ont été rapportées, car vous savez que ce sont des gazons en plaques, du gazon en plaques qui a été appliqué sur cette pelouse.
Le PSG est donc obligé de migrer au stade Yves du Manoir de Colombes. Mais ce stade est beaucoup plus petit et ça n'est pas l'idéal pour accueillir des matchs du championnat. Le 9 février 75, Paris reçoit Marseille.
L'OM a disposé de Rennes 3-1. Trois buts des Brésiliens, Paulo César et Jair Zinho, sont enfin devenus rentables. Mais César a toujours la bougeotte. Dès le coup de sifflet final, il s'est rhabillé en vitesse pour prendre le premier avion en direction du Brésil. Paolo est parti là-bas régler quelques affaires personnelles, assister aussi au carnaval de Rio, que voulez-vous. Monsieur Méric a donné sa bénédiction, mais on n'a peut-être pas fini de parler des escapades de César. Comme on n'a pas fini de parler, hélas, des malheurs du football parisien. D'abord, de ceux du Paris Saint-Germain, tenus en échec à Colombes par Lyon 2-2. La situation devient vraiment préoccupante, et Daniel Echter, le président de Saint-Germain, n'hésite pas cette fois-ci à tirer la sonnette d'alarme.
On n'a fait que 8000 spectateurs contre Lyon. C'était un match à plus de 30 000 au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a perdu entre 25 et 30 millions de recettes nettes. Et malheureusement, on est encore une fois pas responsable. Et ceux qui ont dit qu'ils voulaient un club à Paris, et le président de la fédération en premier, doit faire quelque chose pour le football à Paris, mais il faudrait qu'il le fasse vite parce qu'il risque de plus y avoir de club l'année prochaine.
Le PSG est donc condamné à rester à Colombes pendant au moins 6 mois. Le temps de remettre la pelouse du parc en état. Le président du club, Daniel Echter, est inquiet. Pour assurer l'équilibre financier, il lui faut en moyenne 23 000 spectateurs par rencontre. Et les jauges de Colombes ne les atteignent pas.
C'est ça la catastrophe. C'est qu'il était déjà difficile de faire revenir le public parisien qui, en 6 mois de temps, est passé de public à supporter. Mais de faire le vase communicant et de les entraîner à Colombes, ça c'est un préjudice certain et il est très probable que nous perdions 40 à 45% de spectateurs et ça c'est trop grave, nous ne pourrions pas continuer comme ça.
Daniel Echter, aujourd'hui vous êtes un président découragé?
Non, j'ai l'habitude de me battre et c'est encore un coup fois que je prends, mais enfin je suis pas KO.
Pas KO, mais pas loin. Refaire la totalité de la pelouse coûte 400 000 francs. Et le PSG n'a pas d'argent. Le président de la Fédération française de football, Fernand Sastre, a peut-être un début de solution.
Il faut d'abord terminer la saison avec tous les rendez-vous qui ont été fixés, surtout en fin de saison, notamment la finale de la Coupe d'Europe, des clubs, différents matchs internationaux et la finale de la Coupe de France. Ensuite, nous verrons et les experts le fixeront s'il convient de faire des travaux plus importants concernant la réfection de la pelouse. Mais les experts pensent qu'il est possible de sauver la pelouse du Parc des Princes avec un certain nombre de travaux. Et notamment, il a été décidé de recouvrir la pelouse du Parc des Princes d'une bâche amovible pour empêcher la pluie de pénétrer sur le gazon.
La bâche est installée et les matchs peuvent reprendre. Au mois de mai 1975, les Allemands du Bayern de Munich et les Britanniques de Leeds disputent la finale de la Coupe d'Europe au Parc des Princes. Mais à l'issue de la rencontre, les supporters britanniques saccagent le terrain. Et pour le PSG, c'est encore un coup dur. Trois semaines plus tard, le Conseil de Paris, propriétaire du Parc des Princes, accepte de financer les travaux. Le 19 août 1975, enfin, la pelouse du Parc des Princes est prête. Un jeune journaliste de 22 ans, qui s'appelle Patrick de Carolis, est parmi les premiers à la fouler pour la chaîne TF1.
Eh bien, voici cette fameuse pelouse. Les responsables, qui n'ont d'ailleurs pas voulu répondre à mes questions sur l'état du terrain, m'ont surtout conseillé de ne pas y rester trop longtemps, je ne sais pas pourquoi. Alors, puisqu'aucun spécialiste n'a voulu tester pour vous cette pelouse, je vais le faire moi-même. Premier aspect, eh bien, cette pelouse ressemble à un jardin. Les gens aimeraient bien pique-niquer dessus, mais ce n'est pas le but d'un terrain de football. Deuxième aspect, quand on donne un coup de talon dans cette pelouse, un petit trou, mais peut-être est-ce normal. J'ai l'impression d'un petit peu de m'enfoncer, mais il faut dire aussi qu'il a plu pendant ces derniers jours. Reste à savoir maintenant si les joueurs ne termineront pas ce match avec des bottes. Eh bien, quand on m'est conseillé de ne pas jouer sur cette pelouse avant ce match, je ne peux pas résister à l'envie de taper dans ce ballon.
1975, on de la traconte sur Europe 1.
En 1975, Joe Dassin est un chanteur populaire à succès. Et cette année-là, il travaille sur son prochain album.
Dassin avait déjà enregistré ses chansons de l'été. Son directeur artistique se rend à Londres pour une séance de travail.
Le directeur artistique de Joe Dassin, Jacques Play, arrive à Londres pour peaufiner les derniers détails. Et là, il découvre que l'équipe est en boucle sur une chanson. Mais pas une chanson de Joe Dassin. Il demande à l'écouter.
Tout le monde en parlait. Il l'avait écouté la semaine précédente et quelqu'un a demandé à le réentendre. Et ils ont passé ce disque, et dès que je l'ai entendu, j'ai eu un coup. Parce que chaque fois que je tombe sur un disque comme ça, c'est qu'il y a des disques qui me font quelque chose et ceux qui me font rien.
À l'origine, elle s'appelait Africa, l'histoire d'un noir américain qui retrouve ses racines africaines. Un slow chanté en anglais par un groupe italien.
Un groupe italien, tu parles ? Un chanteur tout seul, Toto Cotugno. Et sa chanson, la voici.
You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass, suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic. Look at the people running, shouting like they've all gone mad. You know, I think I just might go back to Africa.
Immédiatement, Jacques Play, le directeur artistique de Dassin, se procure les droits de la chanson, au nez et à la barbe, d'un autre chanteur.
Claude François voulait enregistrer une chanson sur cette musique, mais au moment où le rendez-vous devait se passer avec les éditeurs, il dormait et personne n'a osé le réveiller. Donc il a perdu les droits d'édition.
Une fois les droits acquis, Joe Dassin ne veut pas d'une traduction littérale. L'histoire d'origine ne lui correspond pas. Alors Pierre Delanoë et Claude Lemel sont sollicités pour écrire de nouvelles paroles. La chanson romantique est très vite écrite. Mais avant de la boucler, Delanoë a une dernière idée et il en parle à Lemel.
Il m'a dit, l'année dernière j'étais à New York, au mois d'octobre, il faisait très très beau. Et j'ai demandé au chauffeur de taxi qui me conduisait, mais qu'est-ce que c'est ce temps, c'est merveilleux fin octobre. Et il m'a répondu, Sir, it's Indian summer.
Littéralement, l'été indien. L'expression n'existe pas dans la langue française de France. Mais le mail aussi est séduit.
Je lui dis, écoute Pierre, c'est trop beau ça. On ne peut pas se contenter de le laisser dans le couplet. Il faut que ça soit la fin de notre refrain.
L'expression est donc intégrée au refrain et devient le titre de la chanson. Et la chanson est intégrée au disque. Juste avant l'été, Joe Dassin part en promo.
Il y a des années que je n'ai pas fait un disque où j'étais content à la sortie en me disant j'aurais pas pu faire autre chose que ça. Et ouais. Cette fois-ci, je l'ai fait, alors je suis content comme tout. Je ne sais pas ce que ça m'a donné. Ça s'appelle L'été indien.
Tu sais,
Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne. Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle. Il y a un an.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Et à la fin de l'été 1975, eh bien l'été indien est un tube. À la fin de l'année, la maison de disques fait ses comptes, 800 000 exemplaires vendus rien qu'en France. Joe Dassin interprétera la chanson dans différentes langues, dont l'italien, l'Estate di San Martino, et Toto Cotugno lui-même la chantera.
L'estate indiana per noi. Se lo vuoi, il tempo qui si fermerà. Siamo noi l'eternità.
C'était Toto Cotugno avec l'Estate di San Martino, la version italienne de l'été indien de Joe Dassin, qui est le plus gros succès de l'année 1975. C'est fini pour aujourd'hui. Je remercie Julien Pichenet, Guillaume Vasseau, François Desmoulins et Valérie Inizan. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1975 dans le quatrième épisode dont Delattre raconte une année.
Retrouvez On Delattre raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.